Le maître de la terre de Robert Hugh Benson. Roman traduit de l'anglais par Théodore de Viseva. 1908. Ce jour suprême ne viendra point sans que se soit produite auparavant une grande apostasie et sans qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Saint Paul, 2e Épître aux Thessaloniciens, 2, verset 3. Avant-propos du traducteur. L'édition anglaise de ce livre est précédée d'une note de l'éditeur et d'une préface de l'auteur, toutes deux très courtes. La note nous avertit que le maître de la terre est une parabole, illustrant la crise religieuse qui, suivant toute vraisemblance, se produira dans un siècle, ou même plus tôt encore, si les lignes de nos controverses d'aujourd'hui se trouvent prolongées indéfiniment. Car celles-ci ne peuvent manquer d'aboutir à la formation de deux camps opposés, le camp du catholicisme et le camp de l'humanitarisme. Et l'opposition de ces deux camps, à son tour, ne peut manquer de prendre la forme d'une lutte légale avec menace d'effusion de sang pour le parti vaincu. Et voici maintenant, traduite tout entière, la préface de M. Robert Hugh Benson. Je me rends bien compte que ce livre est, à un très haut point, un roman d'aventure, et que de ce fait, comme aussi sous maints autres rapports, il est sujet à des objections et critiques sans nombre. Mais c'est que je n'ai point découvert de meilleurs moyens pour exprimer sous la forme d'un roman les principes que j'avais à cœur d'exprimer. Et que je crois passionnément être vrai, que de les pousser jusqu'à leur limite extrême, ce qui devait fatalement les faire paraître sensationnels. Du moins ai-je toujours tâché à ne point crier trop haut et à garder autant que possible considération et respect pour les opinions opposées aux miennes. Quant à savoir si j'y ai réussi, c'est une autre question, et à laquelle je me garderai bien de vouloir répondre. Ces deux citations ont assez de quoi définir l'objet du maître de la terre et les motifs dont s'est inspiré l'auteur en l'écrivant, pour que le traducteur français se trouve dispensé d'y rien ajouter. Je dirai seulement que M. Robert Hugh Benson est aujourd'hui sans aucun doute le premier des romanciers catholiques de son pays, ou peut-être même de toute l'Europe, depuis la mort de notre cher et grand Joris Karl Huysmans, et que jamais encore, autant que dans son Maître de la Terre, il n'a fait voir, réunis et fondus en un ensemble vivant, ses dons précieux de conteur, de peintre et de philosophe. Il a d'ailleurs apporté à la forme littéraire et au style de son dernier roman un soin que je crains que le lecteur français ne puisse guère apprécier, encore que je me sois efforcé de mon mieux à en garder un reflet dans ma traduction. Et c'est expressément pour la présente édition française du Maître de la Terre qu'il a écrit quelques-unes des plus belles pages des deux derniers chapitres, ce dont il faut que je lui affirme ici, publiquement, ma reconnaissance. Théodore de Viseva. Prologue. Laissez-moi d'abord me recueillir un moment, dit le vieillard en se rejetant au fond de son fauteuil. Les trois hommes étaient assis dans une chambre de dimension moyenne, très silencieuse et aménagée avec l'extrême bon sens de l'époque. Elle n'avait ni fenêtre ni porte, car depuis 60 ans déjà, les hommes, dans le monde entier, s'étant avisé que l'espace n'est point borné à la surface du globe, avait commencé à se créer des demeures souterraines. La maison du vieux M. Templeton se trouvait à 15 mètres environ sous le niveau des quais de la Tamise, dans une situation justement considérée comme fort commode. Le vieillard, en effet, n'avait à faire qu'une centaine de pas pour atteindre la gare du second cercle central des automobiles, et un 0.5 kilomètre pour arriver à la station des bateaux volants de Blackfriars. Cependant, âgé de plus de 90 ans, il ne sortait plus guère de chez lui. La chambre où il recevait ses deux visiteurs était toute recouverte du délicat émail de jade vert prescrit par le comité de l'hygiène. Elle était éclairée de la lumière solaire artificielle qu'avait découverte le grand Reuter 40 ans auparavant. Sa couleur était fraîche et plaisante, absolument comme celle d'un bois au printemps, et le classique calorifère grillagé qui l'échauffait et la ventilait la maintenait invariablement à la température de 18 degrés centigrades. M. Templeton était un homme simple, se contentant de vivre comme avait vécu son père avant lui. Le mobilier de sa chambre, notamment, était un peu suranné, à la fois dans son exécution et dans son dessin, tout construit, pourtant, d'après le système moderne des meubles en émail asbestos, doux, sur armature de fer, indestructibles, plaisants au toucher et imitant à merveille les variétés de bois les plus délicates. Quelques étagères, chargées de livres, s'alignaient des deux côtés de la cheminée électrique, à piédestal de bronze, devant laquelle étaient assis les trois hommes. Dans deux des coins de la pièce attendaient les ascenseurs hydrauliques, dont l'un conduisait aux chambres à coucher, l'autre à la grande antichambre accédant sur le quai. Le père Percy Franklin, l'aîné des deux visiteurs, était un homme de figure originale et attirante. À peine âgé de 35 ans, il avait des cheveux d'un blanc de neige. Ses yeux gris, sous leurs sourcils noirs, avaient un éclat étrange, ardemment passionné. Mais son nez et son menton proéminent, ainsi que la coupe très nette de ses lèvres, rassuraient l'observateur sur sa maîtrise de soi et sa volonté. C'était un de ces hommes que l'on ne peut rencontrer, au passage, sans éprouver le besoin de les dévisager. Son collègue et ami, le père Francis, assis de l'autre côté de la cheminée, se rapprochait beaucoup plus du type moyen. Malgré l'expression fine et intelligente de ses grands yeux bruns, l'ensemble de ses traits dénotait un caractère manquant d'énergie. Et l'on devinait même, dans le mouvement de ses lèvres, dans la façon dont il tenait ses paupières à demi baissées, une certaine tendance à la rêverie sans objet. Quant à M. Templeton, c'était tout bonnement un très vieil homme, avec un vigoureux visage tout ridé, entièrement ras, d'ailleurs, comme l'étaient alors tous les visages du monde. Il reposait doucement dans l'ample fauteuil, appuyé sur ses coussins d'eau chaude, une couverture étalée sur ses jambes. Enfin, il parla, s'adressant d'abord à Percy, qui s'était assis à sa gauche. « Eh bien, dit-il, c'est une très grosse affaire pour moi, de me rappeler avec précision des choses aussi lointaines, mais voici du moins comment je me représente l'enchaînement des faits. En Angleterre, la première alarme sérieuse qu'ait éprouvée notre vieux parti conservateur lui est venue de l'élection du fameux Parlement du Travail, en 1917. Cette élection nous a prouvé combien profondément l'hervéisme avait désormais imprégné toute l'atmosphère sociale. Certes, il y avait eu déjà nombre de théoriciens socialistes auparavant, mais aucun n'était allé aussi loin que Gustave Hervé, surtout pendant les dernières années de sa vie, ni n'avait obtenu autant de résultats. Cet Hervé, comme peut-être vous l'aurez lu dans les manuels d'histoire, enseignait le matérialisme et le socialisme absolu et poussait à l'extrême toutes leurs conséquences logiques. Le patriotisme, d'après lui, était un dernier vestige de la barbarie, et le plaisir, la satisfaction, aussi complète que possible de tous les besoins présents, constituait l'unique bien et l'unique devoir. Et d'abord, naturellement, tout le monde s'était moqué de lui. Dans notre parti, surtout, on soutenait que, sans une religion, sans une forte organisation politique et militaire, ce serait chose impossible de contraindre les hommes à conserver un ordre social même le plus élémentaire. Mais on se trompait apparemment, et Hervé n'avait que trop raison. Après la ruine définitive de l'Église de France, au début du siècle, et les massacres populaires de 1914, la bourgeoisie du monde entier se mit sérieusement à un travail de réorganisation. Et c'est alors que commença l'extraordinaire mouvement dont nous voyons aujourd'hui les effets, un mouvement qui tendait à supprimer toute distinction de patries ou de classes sociales, après avoir supprimé toute institution militaire. C'était la franc-maçonnerie, ai-je besoin de vous le dire, qui dirigeait tout ce mouvement. Né en France, celui-ci s'étendit bientôt à l'Allemagne, où déjà l'influence du socialisme marxiste. Oui, monsieur, interrompit respectueusement Percy, mais c'est surtout l'histoire des événements en Angleterre. L'Angleterre! Eh bien, voici. Donc, en 1917, le Parti du Travail parvint au pouvoir, et ce fut le début réel du communisme. Cela se passait à un moment dont je n'ai pu moi-même garder aucun souvenir personnel. Mais je sais que c'est toujours de cette période que mon père datait l'origine de l'état de choses nouveau. Je m'étonne seulement que la réforme n'ait point marché plus vite. Je suppose qu'il restait encore chez nous un grand fond de l'ancien levain Tory. C'est à cette date que le Times a cessé de paraître. Mais chose étrange, ce n'est qu'en 1935 que la Chambre des Lords, depuis longtemps dépouillée de toute importance, a été supprimée officiellement. Quant à l'Église établie, elle avait cessé d'exister dès 1829, car il faut vous dire que les ritualistes, comme s'appelaient ceux qui, parmi les Anglicans, continuaient à avoir besoin d'un dogme défini et d'un culte, après un effort désespéré pour amener à leur cause le Parti du Travail, revinrent en masse à l'Église catholique à la suite de la convocation anglicane de 1919, où fut décidément abandonné le credo de Nicée. Tout le reste de l'Église anglicane, d'autre part, se fondit dans ce qu'on appelait l'Église libre. Et cette Église libre ne réclamait au total qu'une simple adhésion de sentiments. La Bible, dorénavant, avait complètement cessé d'être tenue pour une autorité digne de quelque foi. Les nouveaux assauts de la science allemande, vers 1920, avaient achevé de ruiner son crédit aux yeux de tout ce qui n'était point catholique. Et mon père m'a souvent assuré que dès les premières années du siècle, la divinité du Christ n'avait plus eu, pour les protestants du monde entier, qu'une valeur purement verbale. L'Église catholique, pendant quelque temps, fit alors des progrès extraordinaires. Tous les esprits religieux s'étaient ralliés au catholicisme, tandis que la grande masse des hommes rejetait absolument le surnaturel et devenait jusqu'au dernier matérialistes et communistes. Malheureusement, ce ne fut qu'un feu de paille. Vers 1940, à la clôture du Concile du Vatican, ouvert au XIXe siècle, et qui jusque-là n'avait jamais été dissous, nous perdîmes un grand nombre d'adhérents. Mais, surtout, il y eut l'incessant progrès des communistes. Jamais vous ne sauriez vous imaginer l'émotion universelle qui s'empara de la nation lorsqu'en 1947 fut voté et promulgué le Bill des industries nécessaires. Bien des hommes de notre parti, il est vrai, étaient persuadés que cette nationalisation des principaux métiers allait marquer la fin de toute entreprise. Mais, comme vous ne l'ignorez pas, il n'en fut rien. Au fond, la nation entière désirait cette réforme, sans en avoir nettement conscience, et surtout depuis le moment où l'on avait municipalisé les chemins de fer. Puis vint la réorganisation des retraites ouvrières et des pensions de vieillards. Et vous pouvez bien penser quel surcroît de puissance en ont retiré les communistes. Puis ce fut le Bill de réforme des prisons et l'abolition de la peine de mort. Puis la loi définitive de 1959 sur l'enseignement, interdisant toute instruction religieuse dans les écoles. Puis l'abolition effective de l'héritage, supprimant tout ce qui s'était conservé de l'ancien système. Et comment avons-nous fait pour nous tenir à l'écart de la grande guerre de l'Europe avec l'Orient, demanda Percy. Oh, ceci serait une longue histoire. En un mot, c'est l'Amérique qui nous a retenus. Et du même coup, nous avons perdu l'Inde et l'Australie. Mais notre ministre, Braithwaite, très habilement, a réparé cette perte en nous obtenant, une fois pour toutes, le protectorat de l'Afrique. Au reste, nous verrons mieux tout cela sur la carte. Percy, pendant quelques instants, considéra silencieusement la grande carte géographique que le vieillard venait d'ouvrir devant lui. C'était une carte du monde moderne, mais comparée avec la répartition politique des diverses régions un siècle auparavant. Et rien n'était plus curieux que la différence des multiples bariolages qui représentaient les petites nations de jadis et des trois grandes plaques de couleurs correspondant aux trois grands empires de la fin du XXe siècle. D'abord, le doigt de M. Templeton se promena sur l'Asie. Les mots « Empire d'Orient » couraient à travers le jaune pâle, depuis les monts Oural à gauche jusqu'au détroit de Bering à droite, s'étendant, avec leurs lettres géantes, sur l'Inde, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La tache rouge que le doigt désigna ensuite était sensiblement moindre, mais cependant assez importante, puisqu'elle recouvrait toute l'Europe et toute la Russie asiatique jusqu'au mont Oural. Enfin, la République américaine formait une tache bleue, répandue sur l'ensemble du continent transatlantique, et qui se répandait encore tout alentour en une pluie d'étincelles bleues sur le blanc des mers. Oh oui, cela est beaucoup plus simple qu'autrefois, dit simplement le vieillard. Percy referma l'atlas et le remit sur la table. Et maintenant, monsieur, à votre avis, demanda-t-il, que va-t-il arriver ? Le vieil homme d'État catholique eut un sourire d'indécision. Ce qui arrivera, dit-il, Dieu seul le sait. Si l'Empire d'Orient se décide à se mettre en mouvement, nos États-Unis d'Europe ne pourront rien contre lui. Et le fait est que je ne comprends pas pourquoi l'Orient ne s'est pas encore mis en mouvement jusqu'ici. Je suppose qu'il en est empêché par ses divisions religieuses. « Vous ne croyez pas que l'Europe se désunisse ?» demanda le prêtre. « Oh non, certainement, non. Nous nous rendons trop compte désormais du danger que nous courons. Mais tout de même, il n'y aura que Dieu qui puisse vraiment nous empêcher de périr si l'Empire d'Orient se décide enfin à nous attaquer. Car cet empire connaît maintenant sa force. Et que sommes-nous en comparaison de lui ?» Mais au sujet de la religion, reprit Percy, que croyez-vous qu'il arrive ? M. Templeton, visiblement là, aspira d'abord une longue bouffée de son inhalateur d'oxygène. Après quoi, avec sa courtoisie habituelle, il se mit en devoir de répondre. Pour résumer la situation, dit-il, il n'y a plus au monde que trois forces qui comptent. Le catholicisme, l'humanitarisme et les religions de l'Orient. Sur ce dernier terrain, je ne saurais rien prédire. La récente union des Chinois et des Japonais achève de dérouter tous nos calculs. Mais en Europe et en Amérique, incontestablement, le conflit n'existe qu'entre les deux autres éléments que je viens de nommer. Tout le monde, il est vrai, a fini par reconnaître qu'une religion surnaturelle implique forcément une autorité absolue et que le jugement individuel en matière de foi n'est autre chose que le commencement de la décomposition. Et il est vrai aussi que, puisque l'Église catholique est l'unique institution qui prétende détenir une autorité surnaturelle, elle est assurée de l'hommage de tous les chrétiens qui conservent, à un degré quelconque, la croyance dans le surnaturel. Tout cela est certain, mais d'autre part, il ne faut pas oublier que l'humanitarisme, contrairement à l'attente générale de Naguère, est en train de devenir lui-même une religion organisée, malgré sa négation du surnaturel. Il s'est associé au panthéisme. sous la direction de la franc-maçonnerie, il s'est créé des rites qu'il ne cesse point de développer. Et il possède lui aussi un credo, l'homme et Dieu, etc. Il a donc désormais un aliment effectif et réel pouvant être offert aux aspirations des âmes religieuses. Il comporte lui aussi une part d'idéal, tout en ne demandant rien aux facultés spirituelles. Et puis, ces gens-là ont à leur disposition toutes les églises, sauf les quelques chapelles qu'ils ont daigné nous laisser, toutes les magnifiques cathédrales d'Angleterre et du continent, et dans tous les pays, ils commencent enfin à encourager les élans du cœur. Et puis ils sont libres, eux, de déployer abondamment leurs symboles, tandis que cela nous est interdit. Je suis d'avis que, avant 10 ans, leur doctrine sera légalement établie comme religion officielle dans l'Europe entière. Et nous, les catholiques, pendant ce temps, nous reculons toujours. En Amérique, je suppose que nous avons encore nominalement un 40e de la population, grâce à l'admirable mouvement catholique du début du XXe siècle. En France et en Espagne, nous ne comptons pour ainsi dire plus. En Allemagne, notre nombre diminue de jour en jour. En Italie, là nous avons reconquis Rome, qui de nouveau nous appartient exclusivement. Mais le reste de la presqu'île est perdu pour nous. Ici, enfin, nous gardons toute l'Irlande et peut-être un 60e de l'Angleterre, de l'Écosse et du pays de Galles. Mais notre proportion était d'un sur 40 il y a 20 ans encore. En outre, depuis ces temps derniers, les énormes progrès de la psychologie sont en train de nous causer un dommage qui ne va plus cesser de grandir. Autrefois, nous n'avions contre nous que le matérialisme pur et simple. Eh bien, des hommes le trouvaient trop cru, trop grossier. Maintenant, voici la psychologie qui remplace l'ancien matérialisme et qui, au lieu de nier le surnaturel, se pique de l'admettre en l'expliquant à sa façon. Hélas, mon père, la chose n'est point douteuse, nous reculons et nous allons continuer de reculer. Et je crois même que nous devons nous tenir prêts pour une catastrophe d'un moment à l'autre. Cependant, commença Percy, vous vous dites que j'ai des vues bien sombres pour un vieillard sur le bord du tombeau. Que voulez-vous ? Je vous ai ouvert toute ma pensée. J'ai beau faire, je n'aperçois aucun espoir. Et il me semble que dès maintenant, il suffirait du moindre incident pour accomplir notre ruine. Non, voyez-vous, je n'aperçois aucun espoir. Jusqu'au jour où... Percy releva brusquement les yeux sur son interlocuteur, comme si les derniers mots de celui-ci avaient répondu à l'aboutissement de ses propres pensées. Jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra, ainsi qu'il l'a promis, reprit le vieil homme d'État. Percy resta encore immobile quelques instants, puis il se leva. « Je vais être forcé de partir, monsieur, » dit-il. « Voici qu'il est 19 heures passées. Je vous remercie infiniment. Venez-vous, mon père ?» Le père Francis se leva aussi, et les deux visiteurs s'apprêtèrent à sortir. « Eh bien, mon père, » dit le vieillard en s'adressant à Percy, « revenez me voir l'un de ces jours, si vous ne m'avez pas trouvé trop bavard. Je suppose que vous allez avoir à écrire votre lettre pour Rome. » Percy fit un signe de tête affirmatif. « J'en ai écrit une moitié ce matin, » dit-il. « Mais, étranger comme je le suis depuis l'enfance aux choses de l'Angleterre, j'ai senti qu'il me fallait me renseigner d'abord auprès de vous sur les origines et les causes de la situation, avant de me risquer à exposer celle-ci sous son jour véritable. Et combien je vous suis reconnaissant de m'avoir éclairé. Au fait, c'est un gros travail et d'une responsabilité énorme, cette lettre quotidienne que je suis chargé d'écrire au cardinal protecteur. J'ai l'intention d'y renoncer bientôt, si seulement le cardinal veut bien me le permettre. « Mon cher enfant, » s'écria le vieux monsieur Templeton, « ne faites point cela. Si vous m'autorisez à vous parler en toute sincérité, j'ai l'impression que vous êtes doué d'une observation extrêmement pénétrante, et Rome a besoin d'être informée par des gens tels que vous. » Percy sourit modestement et se dirigea vers la porte. « Venez, mon père, » dit-il à son compagnon. Les deux prêtres se séparèrent en arrivant sur le quai, et Percy, resté seul, s'arrêta quelques minutes à contempler la scène automnale qui se déroulait autour de lui. Ce qu'il avait entendu chez le vieillard lui semblait éclairer étrangement le magnifique tableau de prospérité qui s'étalait à sa vue. L'air était aussi lumineux qu'au milieu du jour, car depuis les derniers progrès de la lumière artificielle, Londres ne connaissait plus de différence entre le midi et la nuit. Le jeune prêtre se trouvait dans une façon de cloître vitré, dont le sol était tapissé d'une préparation de caoutchouc sur laquelle les pieds ne produisaient aucun son. Au-dessous de lui circulait un double torrent infini de personnes, allant à droite et à gauche, sans autre bruit que le murmure des conversations, dont la plupart en langue espéranto. À travers la vitre dure et transparente qui fermait d'un côté le passage public, le prêtre apercevait une route large et noire, entièrement vide. Mais tout à coup, une grande clameur retentit du côté de Westminster, pareille au bourdonnement d'une ruche géante, et dès l'instant d'après, un grand objet lumineux passa sur la route. Et puis l'intensité de la clameur s'éteignit peu à peu, à mesure que le grand train national automobile, arrivant du sud, poursuivait son chemin vers l'est. C'était là une voie privilégiée où seules les voitures de l'État avaient permission de passer, et à une vitesse n'excédant point 150 km à l'heure. Tous les autres bruits étaient étouffés dans cette ville caoutchoutée. Les trottoirs roulants des piétons passaient à quelques 100 mètres plus loin, et la circulation souterraine ne se faisait sentir que par un léger frémissement du sol. Mais au moment même où Percy allait se remettre en marche, une note musicale résonna, soudain, qui semblait jaillir de la voûte du ciel. Un long accord d'une beauté et d'une intensité merveilleuses. Et le prêtre, en relevant les yeux des flots paisibles de la Tamise, qui seul s'était jusqu'alors refusé à se laisser transformer, vit, très loin au-dessus de lui, se détachant sur les nuages vivement éclairés, un long objet mince, imprégné d'une douce lumière, qui glissait vers le nord, et bientôt disparut sur ses ailes déployées. Ce délicieux appel musical, c'était la voix des lignes européennes de grands bateaux volants pour annoncer l'arrivée d'un de leurs aériens dans les diverses stations où ils s'arrêtaient. Jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra, se redisait Percy. Et pour un instant, de nouveau, son ancienne angoisse lui étreignit le cœur. Combien c'était chose difficile de tenir les yeux fixés sur cet horizon lointain, tandis que le monde se déployait tout proche, avec tant d'attrait dans sa force et dans sa splendeur. Tristement, le prêtre reprit sa marche, se demandant combien de temps encore le père Francis, son compagnon, arrivé hier de Rome avec lui, garderait la force de résister à une telle épreuve. Et puis, après un dernier regard jeté sur les eaux tranquilles du fleuve, il descendit le large escalier qui menait à la voie souterraine. Ce délicieux appel musical, c'était la voix des lignes européennes de grands bateaux volants pour annoncer l'arrivée d'un de leurs aériens dans les diverses stations où ils s'arrêtaient. Jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra, se redisait Percy. Et pour un instant, de nouveau, son ancienne angoisse lui étreignit le cœur. Combien c'était chose difficile de tenir les yeux fixés sur cet horizon lointain, tandis que le monde se déployait tout proche, avec tant d'attrait dans sa force et dans sa splendeur. Tristement, le prêtre reprit sa marche, se demandant combien de temps encore le père Francis, son compagnon, arrivé hier de Rome avec lui, garderait la force de résister à une telle épreuve. Et puis, après un dernier regard jeté sur les eaux tranquilles du fleuve, il descendit le large escalier qui menait à la voie souterraine.